Dans 10 jours, on sera tous en train de se demander pourquoi on a autant mangé, autant bu, et on se dira qu'on fera mieux l'année prochaine, pour autant qu'on arrive à passer le 31 décembre sans encombre. Pourtant, la semaine prochaine pourrait bien être plus reposante que celle qui nous attend là tout de suite. Cette dernière semaine de trading complète et qui ne fait peur à personne. Qui ne fait peur à personne parce que on est encore trop concentré sur la semaine précédente qui était censée nous apporter des réponses et plein de stress. Alors qu'en fait, elle a apporté surtout des questions et pas tant de stress que ça. Finalement, si c'était la semaine du 15 au 19 décembre qui allait nous couronner cette année de dingue, on en parle dans les 12 prochaines minutes et ensuite, je vous laisse aller courir dans les magasins pour les dernières courses avant que le camion Coca-Cola passe devant la maison. Et bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 15 décembre 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Je vais donc vous le redire une dernière fois, la Fed a baissé les taux la semaine dernière et elle les a baissés en expliquant qu'elle pourrait très bien recommencer, mais sans aucune certitude que ce soit nécessaire. Autrement dit, elle pourrait aussi très bien ne rien faire ou faire moins que ce que le marché imaginait. Pour résumer simplement, la Fed ne sait pas vraiment où elle va, ni ce qu'elle devra faire demain, après-demain ou l'année prochaine. Et si on regarde le détail des votes, on se rend même compte que les membres en étaient clairement pas d'accord entre eux. Un niveau de désaccord qu'on n'avait plus vu depuis très très longtemps. Mais ça, bien sûr, vous le savez déjà. Malgré tout, la Banque Centrale Américaine a baissé les taux et a annoncé qu'une nouvelle baisse pourrait intervenir l'an prochain sans aucune garantie, même si les experts de Wall Street continuent d'en anticiper au moins 2 l'année prochaine, en 2026. Bel optimisme, il faut le dire. Le marché, lui, en a profité pour inscrire de nouveaux records en passant allègrement sous silence deux éléments qui me semblent pourtant essentiels. Premier élément essentiel, pendant que tout le monde a son regard fixé sur la baisse des taux, le véritable mouvement de la Fed était ailleurs. Pendant qu'on applaudissait, la Fed elle a discrètement recommencé à acheter de la dette américaine. Officiellement, bien sûr, c'est pour améliorer la liquidité. Officieusement, c'est surtout pour aider à financer un déficit qui est devenu largement incontrôlable. Les taux courts sont maintenus sous perfusion, mais les taux longs ne répondent plus. Malgré les baisses de taux, le 10 ans continue de grimper à 4,18 ce matin, tandis que le 30 ans flirte dangereusement avec les 5%. Le marché ne croit plus vraiment au pilotage monétaire et commence à se focaliser sur la dette. On appelle ça de la gestion technique. En réalité, c'est de la répression financière. Fed et Trésor qui avancent désormais main dans la main, et quand la politique budgétaire prend le pas sur la politique monétaire, eh bien l'histoire se termine rarement bien. Mais peu importe, la Fed a baissé les taux et c'est visiblement la seule chose qui compte depuis mercredi dernier. Et puis, il y a bien sûr, il y a l'autre truc, celui qui choque absolument personne et qui du coup me choque encore plus, c'est le fameux dot plot de la Fed. Alors vous connaissez le principe depuis le temps, un joli graphique censé refléter les intentions de vote des membres de la Fed et nous donner une vague idée de ce qu'ils pourraient éventuellement faire peut-être sur les taux au cours des 12 prochains mois. Sauf que tout le monde sait que c'est du pur storytelling. Les membres de la Fed sont déjà incapables de savoir ce qu'ils feront à la prochaine réunion dans un environnement macroéconomique devenu aussi lisible que la quête de l'Arche d'Alliance. Mais peu importe, malgré le chaos économique et géopolitique ambiant, on continue à faire comme si ces projections avaient une quelconque valeur prédictive. On fait semblant de croire que les mecs savent ce qu'ils font. Et bien sûr, pendant ce temps-là, personne ne semble vouloir intégrer un petit détail, pourtant majeur, puisque d'ici l'été, la Fed va se prendre un énorme coup de sac, un choc politique qui pourrait remettre en cause non seulement sa crédibilité, mais aussi son indépendance même. Or, cette indépendance, elle est fondamentale. Sans elle, la politique monétaire devient un outil politique à court terme avec une tentation permanente de baisser les taux pour financer les déficits au risque de raviver notre fameuse inflation. L'histoire est limpide. Quand une banque centrale commence à obéir au pouvoir, la monnaie finit toujours par se faire massacrer sur les marchés financiers. Le principe d'indépendance de la Fed remonte au Federal Reserve Act de 1913 qui a été renforcé par l'accord historique de 1951 qui a séparé la Fed et le Trésor. Mais la nomination imminente du successeur de Jerome Powell pourrait bien balayer tout ça. Et franchement, comment voulez-vous anticiper quoi que ce soit sur les taux quand il y a 9 chances sur 10 que le prochain patron de la Fed soit un fidèle de Trump qui a pour seule consigne baisser les taux fort, vite et sans poser de questions. Le sujet du prochain président de la Fed pourrait donc devenir le dossier central de cette dernière semaine complète de 2025. Trump a d'ailleurs déjà commencé à mettre l'ambiance il y a encore quelques jours. Tout le monde était à peu près convaincu que le successeur de Powell s'appellerait Kevin Hassett. Un homme qui promet l'indépendance à chaque phrase, mais dont l'autonomie semble s'arrêter là où commencent les consignes de la Maison Blanche. Et puis ce week-end, Trump a rajouté une couche en expliquant, selon sa propre réflexion intérieure autosuffisante, que le favori du moment pourrait finalement être Kevin Warsh. De Kevin. Si Hassett vous paraît déjà bien aligné sur la ligne de Trump, Kevin Warsh, c'est le banquier central tel que Trump le fantasme dans ses rêves les plus fous. Ancien gouverneur, CV impeccable, discours bien lissé, bien repassé, mais logiciel intégralement compatible avec le Trumpisme 2.0. Pour Warsh, la Fed a trop longtemps résisté, trop longtemps freiné, trop longtemps joué à l'institution indépendante. Les taux doivent baisser fort et vite parce que la croissance, la bourse et le pouvoir politique passent avant tout le reste. Il ne voit pas la banque centrale comme un contre-pouvoir, mais comme un outil au service de l'exécutif, du marché et du narratif. Avec lui, la politique monétaire cesse d'être une boussole pour devenir un instrument électoral. Ce n'est pas un banquier central, c'est un clone de Trump avec un badge de la Fed collé sur le front. Dans les deux cas, le futur président de la Fed aura le pouvoir de foutre un merdier monumental, de remettre en question plus de 70 ans de doctrine monétaire et de rendre l'inflation potentiellement incontrôlable. Ce qui rend encore plus sidérante l'autosatisfaction générale observée la semaine dernière quand tout le monde se félicitait de voir une Fed soi-disant capable de projeter ce qu'elle ferait l'an prochain. En réalité, elle n'en sait rien pour des raisons macroéconomiques évidentes et elle le saura encore moins selon le personnage ou le clown qui prendra les commandes de la Fed. Mais peu importe, l'essentiel visiblement, c'est de croire que tout ira bien et d'éviter de trop perturber les investisseurs à 10 jours du passage du gros en rouge avec ses rênes. Voilà pourquoi la nomination du successeur de Powell risque bien de nous occuper dans les jours qui viennent et encore, ce n'est que le début. Ce n'est que le début parce que ce n'est pas tout, parce que le BLS, le Bureau of Labor Statistics, a quand même pas mal charbonné ces dernières semaines. Enfin, depuis qu'ils sont revenus au bureau après le shutdown. Et résultat, cette semaine, ils vont nous sortir tout un tas de statistiques qu'on n'avait plus vues sur nos écrans depuis un bon moment. Mais comme ils sont franchement à la bourre, ils vont même casser la tradition en publiant les chiffres de l'emploi, les fameux non-farm payrolls, un mardi au lieu du sacro-saint premier vendredi du mois. Donc dès demain, on aura droit au NFP novembre, même si tout le monde sait très bien que le BLS est déjà incapable de produire une statistique fiable du premier coup et qu'il lui faut au minimum 3 mois pour commencer à être à peu près sûr de ses chiffres. En clair, les vrais chiffres de l'emploi de novembre, on les connaîtra autour du... fin février, dans le meilleur des cas. Mais ce n'est pas grave qu'on se passionne pour des chiffres approximatifs validés politiquement avant publication sous peine de licenciement express. L'important dans tout ça, c'est d'avoir la matière pour se raconter des scénarios en chantant des chants de Noël devant le sapin. Et puisqu'on adore se faire des films, il ne faudra pas non plus rater la publication du CPI de novembre, histoire de vérifier si, comme prévu par la Maison Blanche, l'inflation est gentiment en train de rentrer à la niche. Très gentiment, ajoutez à ça les ventes de détail d'EP par Black Friday, Black Saturday, Black Sunday et Cyber Monday, prévues elles aussi mardi, sans oublier les Jobless Claims et le Philly Fed et 2-3 autres réjouissances du même acabit. De quoi vérifier que notre grille de lecture n'a pas changé ces dernières semaines. Si les chiffres sont mauvais, c'est une bonne nouvelle parce que la Fed va baisser les taux encore. Et s'ils sont bons, c'est une bonne nouvelle aussi parce que l'économie va trop bien. Et puis donc, en fin de semaine, il y aura la réunion de la Bank of Japan. Et là, ça devient vraiment intéressant. Oui, parce qu'en ce moment, il est clairement dans le domaine du possible d'assister à une hausse des taux au Japon, chose qu'on n'a plus vue depuis je ne sais combien de temps. Le marché lui donne environ 55% de probabilité, mais le vrai sujet n'est pas tant la hausse elle-même, qui est d'ailleurs largement dans les prises si on en croit les experts. Mais c'est surtout le discours d'Ueda qui aura lieu après la décision. S'il laisse entendre que c'est juste le début d'un cycle, les conséquences pourraient être bien plus larges, notamment sur le carry trade, et donc par extension sur les actifs risqués, tech, IA et crypto. Oui, parce que le carry trade, c'est le carburant discret de beaucoup de prises de risques, tant que le moteur tourne, tout va bien. Mais quand on le coupe, l'avion perd très vite de l'altitude. Le mécanisme est assez simple. On emprunte le yen à taux quasi zéro. On vend le yen, on place l'argent sur des actifs plus rémunérateurs. Tant que le yen reste faible et stable, personne ne s'inquiète. Mais s'il se retourne, les turbulences peuvent être violentes, sans même parler des fonds de pension japonais qui pourraient avoir soudainement envie de rapatrier une partie de leurs investissements américains, et donc certains hedge funds américains qui pourraient avoir très envie de couper leurs investissements tout court dans les actifs risqués. Bref, le Japon, c'est un peu l'épée de Damoclès au-dessus des marchés mondiaux. C'est notre faille de Sant'Andrea financière. On sait que ça finira par péter un jour, mais impossible de dire quand, où et comment. Et ce monstre pourrait commencer à se réveiller dès le 19 décembre avec la décision de la BOJ. Et comme si ça ne suffisait pas, ce tableau de début de semaine serait incomplet sans mentionner une tech en mauvaise posture après les publications d'Oracle et de Broadcom. L'endettement du premier et la guidance du second ont clairement refroidi le marché, déclenchant des ajustements de position qui continuent de peser sur le segment IA et data center. Alors oui, il paraît encore peu probable que tout explose avant Noël. Après, en revanche, c'est une autre histoire. Au final, cette semaine que personne n'avait vraiment envie de regarder ressemble dangereusement à ces moments où tout paraît calme, juste avant que ça se mette à vibrer sous nos pieds. Rien n'est encore cassé, rien n'a officiellement explosé, mais tout est sous tension. Une Fed qui doute, une indépendance monétaire qui vacille, des chiffres économiques qu'on analyse sérieusement tout en sachant qu'ils sont bancals, un Japon qui joue avec le bouton nucléaire du carry trade, et une tech qui commence à montrer des signes de fatigue après avoir porté le marché à bout de bras toute l'année. Alors non, c'est peut-être pas la semaine de tous les dangers, mais c'est clairement une semaine où le marché marche sur des œufs en regardant déjà vers les fêtes, en espérant que rien ne vienne gâcher l'ambiance avant le sapin. Le problème dans tout ça, c'est que l'histoire nous a appris que les surprises aiment bien arriver quand tout le monde a déjà rangé son cerveau en mode vacances. Donc on va surveiller tout ça tranquillement, sans paniquer, mais sans détourner le regard non plus. Parce que si 2025 devait nous offrir un dernier rebondissement avant le gong final, ce sera exactement ce genre de semaine qu'on choisirait pour le faire. Nous, on ne se retrouve pas demain parce que demain, je suis chez Swissquote pour tourner l'Outlook 2026, mais je serai de retour dès mercredi matin. D'ici là, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter. En attendant mercredi, soyez forts et fort prudents. Bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.